Vous êtes avec SBS French.
La Nouvelle-Zélande annonce la date de début d'une bulle de voyage avec l'Australie. Le gouvernement fédéral envisage de mettre en place des centres de vaccination de masse. Et en France, des vaccinodromes et des hôpitaux militaires en renfort au déploiement de la vaccination. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, devrait annoncer une date de début de voyage sans quarantaine depuis l'Australie plus tard dans la journée. Depuis plusieurs mois déjà, les Néo-Zélandais peuvent se rendre dans la plupart des États et territoires australiens sans devoir se soumettre à 2 semaines de quarantaine à l'hôtel en raison de l'épidémie de COVID-19. La compagnie aérienne Air New Zealand a déjà vendu un nombre considérable de vols à destination et en provenance de l'Australie à partir du 19 avril prochain. Dès lors, on spécule que la date probable du début de la bulle trans-Tasman commencerait aux alentours du 19 avril. Les dirigeants des aéroports néo-zélandais se disent en tout cas prêts à accepter des vols sans quarantaine en provenance de l'Australie à partir du milieu du mois. Les autorités sanitaires fédérales australiennes disent qu'elles envisagent de mettre en place des centres de vaccination de masse contre le COVID-19 à travers le pays. Le déploiement de la campagne vaccinale a été marqué par des ratés, mais l'Australie serait en mesure d'atteindre seulement un quart de l'objectif initial fixé par le gouvernement, soit 4 millions de personnes vaccinées à la fin de cette semaine. Le gouvernement fédéral affirme que le déploiement de la vaccination s'accélérera lorsque le nombre de cabinets médicaux autorisés à administrer le vaccin aura doublé à la fin de cette semaine. Le Parti travailliste de son côté suggère l'ouverture des centres de vaccination de masse, notamment des centres de vaccination dans les stades. Le chef médical par intérim, le professeur Michael Kidd, a déclaré à Nine Network que le gouvernement avait déjà envisagé cette possibilité.
The mass vaccination sites are not off the agenda, particularly as we move into phase 2A. There are discussions with each of the states and territories as to how we best meet the needs of their specific populations to make sure that nobody who wishes to receive this vaccine is going to miss out on receiving the vaccine.
Et aucun cas de transmission locale de COVID-19 n'a été enregistré dans le Queensland pour un troisième jour consécutif. Il n'y a pas non plus de nouvelles infections parmi les voyageurs en quarantaine dans les hôtels de Queensland. Les autorités de cet État, donc du Queensland, exhortent les habitants à observer la distanciation sociale et à appliquer des mesures d'hygiène, ce pour endiguer la propagation d'une épidémie liée à l'hôpital Princess Alexandra de Brisbane. Et après un quatrième jour sans cas de COVID-19 acquis localement, la Nouvelle-Galles du Sud va lever les restrictions sanitaires temporaires qui avaient été mises en place dans le nord de l'État. L'obligation du port de masque dans tous les lieux publics intérieurs et à l'extérieur, la limitation des rassemblements privés à 30 personnes ainsi que l'application de la règle des 4 mètres carrés dans les lieux publics avaient été réintroduites la semaine dernière après qu'un cas de transmission communautaire avait été détecté à Byron Bay. Les autorités sanitaires affirment que quand bien même les restrictions ne sont plus nécessaires, les habitants des collectivités locales de Tweed, Ballina, Byron et Lismore devraient rester vigilants pendant au moins une semaine de plus. Et le mois d'avril devrait être en France synonyme d'accélération de la campagne vaccinale contre le Covid. C'est ce que souhaite le gouvernement avec l'arrivée de 12 millions de doses cette semaine, soit autant que les livraisons cumulées du mois de décembre dernier. Et pour injecter toutes ces doses, les autorités misent sur les vaccinodromes comme celui qui s'ouvre ce mardi au Stade de France près de Paris, et le gouvernement mise aussi sur le recours aux hôpitaux militaires. Frédéric Barbry, porte-parole de l'armée française, explique comment ces moyens médicaux de l'armée française seront mis en œuvre.
Ça va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Les hôpitaux militaires qu'on appelle hôpitaux d'instruction des armées vont ouvrir de façon pérenne 7 jours sur 7 à Brest, à Paris pour descendre, à Metz, à Toulon, à Marseille et à Bordeaux. Ces hôpitaux militaires seront en mesure de délivrer 1000 doses par jour. Il y aura une dizaine de lignes de vaccination qui seront mises en place pour assurer à la fois le filtrage, l'accueil, la vaccination. Le personnel éligible À la vaccination, ce sont donc les personnes de 50 à 69 ans avec des causes de comorbidité ou les plus de 70 ans qui se seront inscrits sur le site Doctolib. La totalité du personnel soignant sera armé par le service de santé des armées. Ça correspond sensiblement à 70 personnes donc par hôpital d'instruction des armées, donc qui seront en mesure en totalité d'offrir une offre vaccinale d'environ 50 000 doses par semaine.
Et toujours en France, depuis hier, les Français ont renoué avec une nouvelle période de restrictions sanitaires. Les déplacements sont limités à 10 km de son domicile, les écoles restent fermées ainsi que les commerces non essentiels et les lieux de culture sont interdits au public, ce pour une durée de 4 semaines. Valérie Gaz de RFI revient sur les motivations de ce nouveau durcissement sanitaire.
En donnant un calendrier lorsqu'il s'est exprimé, Emmanuel Macron a pris un risque, celui de décevoir les Français. Si les nouvelles mesures de freinage sur l'ensemble du territoire hexagonal se prolongent au-delà des 4 semaines annoncées, mais surtout si la réouverture des terrasses et de certains lieux de culture à partir de la mi-mai n'est pas possible, alors c'est Olivier Véran que l'on sait plutôt sur la ligne de la prudence sanitaire qui a été dépêché le lundi de Pâques à la télévision pour répondre aux critiques et redire qu'après les efforts, il y aurait le bout du tunnel. Il y a beaucoup de raisons d'espérer, a dit le ministre de la Santé, qui a fait valoir que l'objectif des 10 millions de vaccinés serait atteint et même dépassé à la mi-avril, qui a laissé entendre que le pic de l'épidémie pourrait arriver dès cette semaine, une manière de justifier la date du début du confinement souvent critiquée. Et enfin, le retour des jours chauds a été présenté par Olivier Véran comme un accélérateur de la lutte contre le virus, un discours volontariste pour valider le nouveau pari d'Emmanuel Macron, celui d'un confinement à durée déterminée.
Le chef de la police de la ville américaine de Minneapolis a déclaré que l'officier blanc jugé pour le meurtre de George Floyd avait enfreint la politique du département sur le recours à la force. Le chef Medaria Arradondo a déclaré que Derek Chauvin aurait dû cesser de s'agenouiller sur le cou de Monsieur Floyd lorsque ce dernier avait cessé de résister et avait déclaré qu'il était en détresse. Il conteste l'affirmation de la défense selon laquelle l'homme de 45 ans qui a plaidé non coupable de meurtre et d'homicide involontaire coupable suivait la formation qu'il avait reçue au cours de ses 19 ans dans la force.
Once there was no longer any resistance, and clearly when Mr. Floyd was no longer responsive and even motionless, to continue to apply that level of force to a person proned out, handcuffed behind their back, that in no way, shape, or form is anything that by policy is not part of our training, and it is certainly not part of our ethics or our values.
Au moins 113 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont portées disparues en Indonésie et au Timor oriental après que des pluies torrentielles ont déclenché des inondations et des glissements de terrain. Caractérisé par des vents violents et de fortes pluies, le cyclone tropical Seroja a ajouté au lot de la misère dans ces pays d'Asie du Sud-Est. Ce cyclone fait suite à un autre passage orageux dimanche dernier qui avait transformé des petites communautés en terrain vague de boue, déraciné des arbres et contraint des milliers de personnes à s'abriter. Au moins 86 personnes ont été tuées en Indonésie, 71 autres sont portées disparues, tandis que 27 sont mortes au Timor oriental. Et quelques 2500 personnes ont été évacuées au Timor oriental et plusieurs milliers d'autres en Indonésie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a critiqué des procureurs dans son procès pour corruption, les accusant d'avoir tenté de l'évincer. Monsieur Netanyahou est accusé de fraude, d'abus de confiance et d'acceptation de pots de vin dans 3 affaires distinctes qu'il nie toutes. Un procureur dans le procès a déclaré que l'homme de 71 ans avait fait un usage illégitime du pouvoir pendant qu'il était en fonction. Monsieur Netanyahou dit que l'affaire contre lui menace de saper la volonté des électeurs israéliens.
One thing cannot be hidden. That's what an improper use of governmental power looks like. That's how they are trying to topple a strong prime minister from the right. This is what a coup attempt looks like. It's not random that the prosecution presented the evidence stage only 1 month before the first elections. Not by chance they filed the indictment before the third elections.
Et entre-temps, selon une coutume post-électorale, le président israélien Reuven Rivlin a entamé des consultations avec les différents partis élus au Parlement avant de choisir un candidat pour former un nouveau gouvernement. Avec une majorité de politiciens opposés à l'idée de donner un autre mandat à M. Netanyahou, M. Rivlin pourrait confier la tâche à un autre candidat. Et le prince Hamza de Jordanie a prêté allégeance au roi Abdallah après une médiation de la famille royale. Cela survient 2 jours après que l'ancien prince héritier a été assigné à résidence, accusé d'avoir tenté de déstabiliser le pays. Selon le palais royal jordanien, le prince Hamza a signé une lettre dans laquelle il s'est mis à la disposition du monarque après une rencontre avec le prince Hassan, l'oncle du roi et d'autres princes. Il n'y a eu aucun mot exprimé directement par le prince Hamza, qui avait publié auparavant un enregistrement niant tout acte répréhensible et affirmant qu'il était visé pour avoir dénoncé la corruption et la mauvaise gouvernance. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré qu'elle travaillait avec les pays du G20 pour convenir d'un taux d'imposition mondial minimum sur les sociétés. L'impôt minimum mondial est un des piliers du plan des dépenses d'infrastructures du président Joe Biden, un plan estimé à 2,6 milliards de dollars australiens. Ce plan préconise une augmentation du taux d'imposition des sociétés aux États-Unis à 28%. Selon Mme Yellen, il est important de mettre fin aux pressions de la surenchère fiscale et de garantir que les États puissent disposer de systèmes fiscaux stables et fiables.
We're working with G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate that can stop the race to the bottom. Together, we can use a global minimum tax to make sure the global economy thrives based on a more level playing field in the taxation of multinational corporations, and spurs innovation, growth, and prosperity.
Retour en Australie où une organisation aborigène du Victoria a ouvert une enquête sur la destruction partielle présumée d'un ancien site historique dans l'ouest de l'État. L'installation en pierre, longue de 171 mètres, est située près du lac Bolac. Cette installation, à la forme d'une anguille, aurait été créée il y a plus de 1500 ans. La structure, connue sous le nom d'arrangement de pierre de Kuyang, se trouve sur un terrain privé et est enregistrée au patrimoine des aborigènes du Victoria. Selon les propriétaires traditionnels, environ 60 mètres de pierre de cette structure auraient été enlevés pour faire place à la construction d'un chemin. Et au football, Rebecca Welch est devenue la première femme arbitre à officier un match de championnat professionnel masculin anglais. L'arbitre, âgée de 37 ans, a pris en charge le match de 4e division du championnat anglais opposant Port Vale à Harrogate. La rencontre s'est soldée par une victoire de Port Vale 2-0 contre Harrogate. Inscrite sur la liste internationale de la FIFA, Rebecca Welch, qui a commencé sa carrière d'arbitre il y a 11 ans, avait déjà officié à 2 reprises pour la finale de la Coupe FA féminine. Simone Weaver, le manager de Harrogate, estime que la performance de Welch va ouvrir la voie aux femmes de pouvoir arbitrer au moins dans l'EFL, qui couvre les 3 ligues inférieures à la Premier League. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie. Perth, 27 degrés. Adélaïde, 27. Melbourne, 21. Hobart, 21. Canberra, 24. Wollongong, 24. Sydney, 27. Newcastle, 27. Brisbane, 25. Cairns, 32. Et Darwin, 33 degrés. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi, la Nouvelle-Zélande annonce la date de début d'une bulle de voyage avec l'Australie. Et le gouvernement fédéral envisage de mettre en place des centres de vaccination de masse. En France, des vaccinodromes et des hôpitaux militaires en renfort au déploiement de la vaccination.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.